BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roura.
Et il est midi pile sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité du jour et les marchés financiers visiblement très optimistes sur une possible issue du conflit au Moyen-Orient. L'ensemble des places européennes sont dans le vert. Paris prend même plus de 2% encore ce midi. Les prix du pétrole ont nettement chuté avec un baril de Brent autour des 86$. Même le marché obligataire se détend un tout petit peu avec un 10 ans français. C'est juste au-dessus des 3,6% et un 10 ans allemand sous les 3%. Un optimisme lié aux dernières déclarations de Donald Trump ces dernières heures, annonçant qu'un accord de paix aurait été trouvé avec les Iraniens. Le président américain parle d'un document à finaliser qui pourrait être signé officiellement dans les prochains jours, peut-être en Europe, précise-t-il. Alors que jusque-là, Téhéran semblait plus mesuré à toute annonce de paix imminente, un média iranien affirme ce midi que le projet d'accord avec Washington pourrait mettre fin à la guerre, y compris au Liban. Il précise en revanche que les négociations sur le nucléaire pourraient encore durer 60 jours. Et puis dans le reste de l'actualité, le rendez-vous économico-boursier du jour, c'est l'entrée sur les marchés de SpaceX, prix par action fixé à $135 pour cette introduction historique qui doit permettre à Elon Musk de lever au moins 75 milliards de dollars. Introduction qui sera évidemment à suivre cet après-midi sur BFM Business. Mais avant cela, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roura.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les vendredis, les meilleurs professionnels de ce secteur de l'immobilier font place aux meilleurs journalistes, toujours de ce secteur de l'immobilier et du logement. Et à mes côtés aujourd'hui, mais oui, Sylvain Lévy pour Radio IMO et Olivier Marin pour Le Figaro. Évidemment, ils sont là pour nous parler parce qu'on va démarrer, comme tous les vendredis, par le fameux topoto de la semaine. Il est d'autant plus important, ce topoto de la semaine, messieurs, que quand même, hier, pour la première fois depuis 3 ans, la Banque Centrale Européenne a relevé ses taux. Est-ce qu'on doit s'attendre à des crédits immobiliers plus chers dans les prochaines semaines, les prochains mois ou pas d'ailleurs? On va voir ça dans quelques instants. Mais on parlera aussi de tout un tas d'autres sujets passionnants puisqu'on fera un point sur le marché de l'immobilier. Bah oui, on est quasiment fin juin, c'est la mi-année de 2026. Est-ce que ça va encore malgré les petites tensions sur les crédits? Sylvain nous dira tout. On ne fera pas l'impasse sur la course au logement étudiant. Olivier est venu avec quelques chiffres qui font peur, le connaissant, mais aussi quelques bons conseils. Non, il me regarde, il me dit non. Mais aussi quelques bons conseils. Toujours pour nos chers étudiants qui sont justement pris à la gorge à ce moment-là où ils doivent chercher leur logement pour la rentrée. On parlera aussi DPE collectif, investissement responsable. Et puis on fera un vœu, si on a le temps, pour terminer cette émission. Quel joli vœu, celui que les études qui se multiplient sur les problématiques liées au logement puissent enfin être placées au cœur du débat public. À quelques mois d'une élection présidentielle, ce serait nécessaire. Allez, c'est parti tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et Sylvain Lévy-Valency, cofondateur de Radio IMO, est avec nous. Bonjour Sylvain.
Bonjour Marie.
Ouais, je m'entraîne à parler de plus en plus vite. On va le faire un peu plus calmement pour Olivier, parce qu'avec sa douce voix, Olivier Marin, rédacteur en chef, propriété Le Figaro, bonjour.
C'est vrai qu'il a une très douce voix.
Bonjour Marie, bonjour Sylvain.
Bonjour Olivier.
Et comment dynamiser tout ça avec notre super jingle allemand?
Les experts de l'IMO, le topoto de la semaine.
Et je le disais, le topoto de la semaine, il est quand même assez particulier parce que c'était quand même un petit événement et presque un non-événement parce que c'était anticipé. On a eu donc cette hausse de taux de la Banque Centrale Européenne hier. On la redoutait et en même temps, on l'attendait tellement que la question qu'on se pose tous là, c'est les petites hausses de taux qu'on a eues sur nos crédits immobiliers en anticipation de celles de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que finalement, c'est pas déjà fait, déjà intégré dans nos crédits ou est-ce qu'on doit redouter une accélération de cette tendance haussière sur les taux d'intérêt, Olivier ?
Oui, en tout cas, cette hausse de la BCE, c'est vrai que ce n'est pas une surprise. On s'y attendait, mais c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour beaucoup d'emprunteurs, que ce soit des primo-accédants. Il faut toujours aussi avoir en tête que 8 achats immobiliers sur 10
sont
réalisés à crédit. Et que 8 dossiers sur 10 sont demandés par des primo-accédants. Donc, il y a une ampleur. Tant qu'on était sur cette vague depuis 2 ans, finalement, d'une relative stabilité, on avait comme ça ce sentiment que ça pouvait continuer, que ça pouvait durer. Il y a un moment où ça commence à, à casser un petit peu.
Ça frotte.
C'est un premier signal. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura, là, dans les prochaines semaines, une hausse des taux d'intérêt pour les particuliers, mais c'est quand même le signal précurseur d'une hausse. Et quand on sait que de plus en plus de dossiers ont du mal, de plus en plus de primo-accédants ont du mal aussi parce que les conditions d'octroi se durcissent, ce qui est normal. Là, il y a eu une baisse aussi de la demande. Il faut avoir en tête que depuis deux mois, il y a quand même, nous disent les courtiers, une baisse de la demande
importante. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autocensure avec cette baisse de demande? Parce que c'est vrai qu'effectivement, on a eu de légères hausses de taux, mais rien qui soit susceptible de changer radicalement la donne par rapport aux conditions d'emprunt d'avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.
Non, mais ça veut dire qu'il y a aussi des projets qui vont être reportés.
Oui, mais il y a quelque chose de psychologique, une forme d'autocensure.
On est complètement dans un contexte, un climat, que ce soit sur les tensions internationales, sur les incertitudes économiques, politiques, on l'évoquera après avec Sylvain sans doute, et avec vous, avec toi Marie, sur la présidentielle et les enjeux en matière de logement qui sont hyper importants, très importants, et heureusement d'ailleurs qu'on voit que le logement est maintenant au cœur des enjeux, on en parle, enfin on en parle comme du pouvoir d'achat, comme de l'emploi, on en parle de plus en plus, et on le voit dans de nombreux baromètres, dans beaucoup d'études, le logement est vraiment au cœur des enjeux de société.
Bien sûr, mais la question, alors, et on sait que l'alpha et l'oméga de ce marché, ça reste le crédit immobilier. Ma question, c'est est-ce qu'on doit s'attendre à...
Enfin, l'impact sur les taux de crédit immobilier, il devrait être très limité, finalement, à court terme, parce que la hausse de la BCE ne se reporte pas immédiatement et mécaniquement sur les taux des banques. Pour une raison simple, c'est que les banques se refinancent sur un marché interbancaire. Autrement dit, l'argent qu'on vous prête, les banques se le font prêter sur un marché interbancaire.
Elles se prêtent entre elles même.
Elles se le prêtent entre elles. Donc le marché interbancaire. Donc l'alignement, si vous voulez, le vrai curseur qui permet ça, ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques d'augmentation. C'est le taux de l'OAT, les obligations assimilables du Trésor, qui est un peu la ligne
directrice. La dette de l'État français.
La ligne directrice, finalement, de la dette de l'État français que les banques achètent. Pas que les banques d'ailleurs, les compagnies d'assurance, et bien sûr tous les investisseurs institutionnels. En revanche, la BCE peut très bien durcir progressivement, et Olivier l'a rappelé, les conditions d'octroi du crédit. Donc, maîtrise des taux, donc pas d'inquiétude à court et à moyen terme. Par contre, conditions d'octroi renforcées dans le cadre de l'alignement des règles de la BCE. Ce qu'on observe en juin 2026, les baromètres publiés en juin montrent des taux qui sont finalement assez stables, autour de 3,25 à 3,53, selon Meilleur Taux, qui publie régulièrement des exemples. Par exemple, 3,25 sur 15 ans, 3,39 sur 20 ans et 3,44 sur 25 ans. On peut dire aussi par comparaison, puisqu'il n'y a pas que Meilleur Taux qui donne l'alpha et l'oméga, mais c'est également Préto, par exemple.
Mais on embrasse tous les courtiers Préto, empruntistes, groupes financiers, CASPI.
Alors, on est sur une variation de 0,2 points. D'accord ? Déjà constaté. Les effets probables dans un mouvement qui est de toute façon, il faut être très clair, qui est un mouvement haussier. On ne va pas dire ici, à la radio, qu'on est sur un mouvement baissier des taux d'intérêt. Non. On est sur une graduation lente, mais réellement haussière. Donc 0,2 points d'ici la fin de l'année, c'est attendu.
0,2, ça paraît pas dramatique.
Ça pas dramatique. Par contre, quand vous prenez l'indice par rapport au financement que pratiquent les banques, ça peut équivaloir à un manque de solvabilité de l'ordre de 3 à 10% du volume total des crédits si on raisonne à l'unité. Donc c'est pas neutre si vous voulez.
Non, c'est pas neutre, mais c'est pas aussi dramatique que ce qu'on a connu au moment de la crise inflationniste liée à la guerre en Ukraine.
Alors si on doit faire passer un message, je veux dire conséquence pour l'emprunteur, un ménage qui va voir baisser sa capacité d'emprunt à mensualité égale, quelques dixièmes de points réduisent le montant finançable. Autrement dit, ça peut être une partie de la surface qu'il faut revoir, une partie de son projet. En pratique, bien sûr, ça va peser notamment sur, je vais vous dire les conséquences, ça va peser sur quel type de dossier? Ceux qui ont peu d'apport.
Bien sûr.
Ceux qui ont peu d'apport, parce qu'effectivement, Olivier a raison, ceux qui tractent le marché aujourd'hui de la transaction immobilière, c'est la primo-accession. Ouais. Parce que malheureusement, les investisseurs ont déserté les marchés immobiliers. Ils semblent revenir, mais c'est pas encore l'embellie. Il faut savoir aujourd'hui que le taux d'effort, c'est la somme que l'on consacre chaque mois pour son loyer ou le crédit de son appartement ou de sa maison, a augmenté au détriment des autres postes du ménage. Ouais. Il faut quand même le dire. Donc, raisonner en termes de pouvoir d'achat et raisonner en termes de taux. Ce qu'on ne verra pas, a priori, mais c'est encore une fois, ce ne sont que des suppositions, on ne verra pas une remontée brutale telle qu'on l'a connue avec, par exemple, je vous le rappelle quand même, qu'on a vu des augmentations de l'ordre de 150 à 200 points de base en l'espace de moins de 3 mois. Donc ça, on ne le reverra pas. Par contre, effectivement, moi je le dis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Olivier, je pense qu'on est sur un marché qui sera légèrement haussier, mais maîtrisé, et pas d'inquiétude à moyen terme.
Et peut-être warning quand même avec la hausse de taux de septembre, parce que la Banque Centrale Européenne...
Aussi,
et le taux d'usure,
alors,
mais bien sûr, attention. Fin du mois, on aura le taux d'usure pour le trimestre qui vient.
Vous avez vu comme moi les communiqués des courtiers hier, vous financez, le titre qu'on reçoit tous les journalistes, c'est « Hausse des taux de la BCE, 2 points, une mauvaise nouvelle pour les emprunteurs et pour les banques ». Communiqué de CAFPI hier... Hausse des taux directeurs de la BCE, 2 points, des conséquences limitées, on peut se dire tiens, limitées, en fait quand on lit dans l'intégralité, c'est des conséquences limitées dans l'immédiat, c'est-à-dire attention. Moi je pense qu'il y a une barre psychologique, c'est celle des 4%, on peut très bien y arriver. Et puis il faut savoir qu'un emprunteur qui pouvait financer 250 000 euros à 3% ne peut plus emprunter que 230 000 euros à 3,5%. C'est pas rien, ça veut dire qu'il va y avoir cette remontée progressive. Alors c'est vrai que les banquiers, les courtiers rassurent aussi en disant attention, il y aura pas c'est tenable.
Pardon
attention,
Olivier.
Chaque 0,1 point.
Ouais, 0,2
point.
C'est pas complètement
pour Olivier. Primo accédant, ce n'est pas négligeable.
Olivier.
Il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Tout le monde n'a pas des parents
Olivier,
derrière
la Société
pour
Générale,
soutenir.
La Caisse d'Épargne, les grandes banques aujourd'hui...
Oui, sortent des offres un
sortent
peu...
des offres.
Oui.
Alors, c'est, non, mais
les banques font
des cotes
en ce moment, des prêts bonifiés, elles sont extrêmement agressives, puisque
ne faisons
le crédit
pas peur,
à l'habitat,
ne faisons
c'est un
pas
produit
peur aux primo-accédants et aux investisseurs et à ceux qui veulent acheter. Mesdames et messieurs, vous achetez, aujourd'hui, les banques ont très largement ouvert leurs vannes, nonobstant le fait que... Et c'est intéressant, j'ai appelé l'ASG. J'ai appelé
la Société Générale.
Voilà, la Société Générale, je l'ai appelée pour savoir...
S'ils pouvaient avoir obtenu un crédit. Alors Sylvain, vous l'avez eu ce crédit ?
Oui, absolument, comment vous le savez ? Effectivement. Non, mais en fait, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes contracyclique ? Est-ce que les annonces de la BCE sont indépendantes de votre offre marketing, etc. ? La réponse est claire, c'est qu'aujourd'hui, les banques de distribution, sont aujourd'hui... très favorable à une offre marketing, soyons très clairs, de leur dossier. Il y a une raison à ça, et je vais vous la donner, cette raison. C'est 30% d'érosion des comptes de particuliers sur l'ensemble des banques...
Sur l'ensemble de la banque
de détail. Alors, je ne vais pas citer le nom de certaines banques, mais je peux vous dire...
Il faut, c'est un journaliste, et c'est pour la transparence, il faut citer.
Ah, mais c'est une hécatombe.
Ah,
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui détiennent des comptes aujourd'hui, on en marre de faire tout sur des applications. Et ce qui est très intéressant, c'est de revenir voir fleurir aux angles de rue des banques qui réinstallent des agences de proximité.
Ouais.
Très simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont perdu le contact avec leurs clients. Donc aujourd'hui, pour regagner du compte de dépôt, parce qu'il y avait tout ce qui va
alors
avec,
ils
bien
font
évidemment,
des tests Cédric, comme le Crédit Agricole.
Eh bien, il faut revenir, ils reviennent là-dessus. Maintenant, c'est indépendant de cette hausse. Mais quand on pose la question de savoir est-ce que la hausse va augmenter, il faut être très honnête.
La hausse va augmenter.
Oui, la hausse.
on a compris. On a compris.
Oui, mais merci de m'avoir.
Taux d'intérêt.
En plus, je suis censé écrire des articles. Bon, voilà.
Mais
on va dire ça comme ça.
Juste une chose, Sylvain. Le modèle du primo-accédant, en tout cas, il évolue. Pendant longtemps, c'était le couple. Eh bien, de plus en plus, et notamment chez les moins de 29 ans, ce sont des célibataires. Qui demandent des crédits pour accéder justement à la propriété.
Et c'est tant mieux si le parcours résidentiel démarre plus tôt aussi, c'est toujours intéressant. C'est pas que je veux pas qu'on continue à parler tôt, mais on a fait déjà la moitié du parcours et on n'a pas avancé. Quand même, alors juste parce que cette saison-ci, on a parlé de la Banque Centrale Européenne, on a parlé du fait qu'effectivement, il y a beaucoup de primo-accédants, peu d'investisseurs, et c'est bien dommage pour tout un tas de locataires, et notamment nos enfants, nos amis étudiants qui, là, en ce moment, sont pas...
Absolument.
Voilà, on va pas dire que c'est galère, mais si, parce que chaque année, j'ai l'impression que le marché se tend davantage.
C'est une catastrophe. Ouais, 2024, c'est une catastrophe. Ils étaient 17% à renoncer à leurs études. En 2025, ils étaient quasiment 20%. Et là, on s'attend entre 20 et 22% de jeunes qui n'iront pas dans les grandes agglos, qui renonceront à leurs études parce qu'ils n'ont tout simplement pas de logement.
Oui, tout à fait. Pour rebondir, d'abord un constat, pour les étudiants, se loger coûte bien sûr de plus en plus cher. Il y a une étude récente de l'Oxservice qui fait un baromètre sur le logement étudiant. Chaque année, loyer moyen d'un studio est en hausse de 4% sur un an. C'est pas négligeable. Il faut compter en moyenne 583 euros
hors
au
Paris.
Niveau national pour une surface de 24 mètres carrés. Avec bien sûr des disparités selon les territoires, et on peut aller de 400 euros dans des villes comme Limoges, Saint-Étienne, jusqu'à 920 euros pour un loyer à Paris. Alors, quelle solution d'hébergement, notamment pour les plus jeunes? Alors, essayez de se lancer le plus tôt possible. On a vu, la Parcoursup, essayez, il y a des appels un petit peu partout. Vous soyez étudiant ou pour les parents, c'est évidemment intéressant. Alors, bien sûr, les résidences universitaires du CROUS, mais elles sont rapidement pourvues. Alors, ensuite, il y a vraiment, il faut le dire, ce sont des conseils. Des plateformes spécialisées. On peut citer la carte des colocs, Studapart, Woomies, Lock Service, ou encore Gens de Confiance, qui parle de, bien sûr, là, plus sur la cooptation.
Ouais.
Il y a les résidences étudiantes privées de nouvelle génération. C'est Studéa, c'est les Estudines, c'est Nomad Campus, Student Factory. Il y a aussi des gestionnaires de résidences sociales étudiantes, comme l'Arpège, qui propose des logements meublés, conventionnés, souvent moins chers que les prix du marché. Et puis, il y a la cohabitation intergénérationnelle. Il ne faut pas l'oublier, l'échange volontaire et solidaire entre deux personnes.
Vous êtes de plus en plus nombreux à m'en parler.
Mais oui, mais elle permet à quelqu'un qui est âgé de plus de 60 ans...
Il y a une campagne avec la Fondation Elogio sur l'habitat intergénérationnel.
Justement,
Donc,
elle permet à quelqu'un qui est âgé de plus de 60 ans de louer une partie de son logement à un étudiant, un jeune actif de moins de 30 ans. Alors, généralement, c'est une chambre libre. Dans une maison ou un appartement, la pratique, elle est vraiment encadrée. On peut pas faire n'importe quoi. C'est inscrit dans la loi. Il y a une charte. Le senior et le jeune sont accompagnés par un organisme dédié ou une association qui met en relation et s'occupe des dossiers. Donc, faut vraiment les citer. Le réseau Cohabilis, Ensemble deux générations, Le Temps pour Toi, ou encore le réseau Colette. Et Colette, qui a déjà formé 2800 binômes, à la fois du jeune et du senior, ambitionne d'ouvrir 1000 chambres d'ici septembre à Paris, mais aussi pour les étudiants à Annecy, à Biarritz ou encore à Nice. C'est un mouvement solidaire vraiment qui ne demande qu'à s'amplifier.
Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, enfin, aujourd'hui, quand on parle de la problématique des seniors qui sont dans des logements qui sont devenus trop grands pour eux, et de ces étudiants qui peinent à trouver.
Ou même trop cher en termes de charges, qui fait que l'étudiant pour une somme. Olivier a cité Cohabilis. Il y a une campagne qui a été menée avec la participation de la FNIM au niveau national et la fondation iLogio avec Cohabilis pour justement essayer auprès des professionnels d'inciter les clients âgés, qui sont seuls parfois parce qu'il y a aussi la solitude. Et vous savez qu'on peut, faire aussi ce qu'on appelle les baux de service. C'est-à-dire que le fait de faire un peu de lecture, de sortir les poubelles, de faire les courses, permet en nature, on appelle ça un bail de service ou un bail de servitude, qui permet effectivement à des jeunes étudiants, pour 140 euros, parfois, de pouvoir se loger dans une grande maison accessible avec les transports en commun, absolument. Bon, alors moi, j'ai le plaisir et l'immense honneur de faire partie de cette fondation. J'en suis administrateur.
Vous accueillez un étudiant, du coup
et, pardon ?
Vous accueillez un étudiant, Sylvain ?
Absolument, absolument. Mais aussi les personnes âgées, parce que ce qui est intéressant d'observer comme phénomène social, c'est qu'on a les personnes âgées qui se retrouvent peinées à gérer leurs charges dans leur logement et souvent, parfois, seules. Parce que la solitude, c'est ce qui pèse le plus. Donc, il y a une vertu dans l'habitat intergénérationnel, c'est de créer du lien social avec les générations.
Le lien social, et on signale jusqu'à Paris, il y a un potentiel de 100 000 logements.
Énorme.
100 000 logements seniors pourraient potentiellement accueillir.
Ce serait un message à faire passer.
Le message, en tout cas, commencé à être passé dans l'émission. Là, on parle de ce qui existe déjà, de ce qui n'existe pas encore, donc les transactions en cours. On en est où, Sylvain ? Rapidement, parce que sinon,
alors, rapidement, c'est un retour à la dynamique, mais c'est un retour prudent. Je voulais juste faire une statistique. 945 000 ventes sur 12 mois à fin décembre 2025, soit plus 12%. Et référence, ce sont les notaires, soit 49 000 quasiment compromis au T1 2026, plus 36% par rapport à 2025. Une projection sur 2026, les estimations, justement, toujours avec les notaires et les professionnels, environ 950 000 ventes, soit le chiffre moyen des 10 dernières années.
C'est pas si mal si on arrive parce qu'effectivement, BPCE parlait de 890, je crois, la semaine dernière.
Oui, absolument. Par rapport à l'an dernier.
Alors, il faut être vigilant. Selon les notaires qu'on a consultés, selon les volumes, on reste toutefois quand même aujourd'hui à moins 25% sous le pic de l'été, si on compare par exemple à 2021.
Oui, il y a eu quand même un petit creux là, quand même.
Oui, un creux, vraiment, en termes de volume. Stabilité nationale, alors bien évidemment, alors vraiment des augmentations très faibles, voire nulles, des prix au T1 2026 versus le T1 2025, par exemple. avec une vraie stabilisation. C'est le journal de l'Agence qui a publié sur cette question une hausse modérée, 0,7% en France métropolitaine, tout confondu, référence les notaires. Appartements anciens, plus 1,3%. Les maisons anciennes, quasi stables, avec 0,2%. Donc là, on est vraiment sur une moyenne de prix. Prix moyen en France, on est à 3 405 euros du mètre carré, selon Meilleur Taux. À Paris, on est stable, au-dessous des 10 000 euros, à 9 540 euros, toujours selon Meilleur Taux.
Avec de sacrés disparités. Et enfin, 7 000 euros dans le 19e, jusqu'à 14 000 euros, quartier Odéon.
Alors, je parle de prix moyen.
Vous venez dans le 19e, Olivier.
Je parle de prix moyen, mais Olivier, donc...
C'est là où il faut faire attention sur ces tendances au niveau des villes. Chaque bien est unique en fonction de l'emplacement.
Je te rappelle, mon cher Olivier, que quand on va dans les villes, on donne quand même des prix moyens.
Oui,
effectivement,
justement,
rue de l'Odéon, on a vendu un appartement à 34 000 euros du mètre carré.
Justement, c'est pour ça qu'il faut penser quartier, il faut penser rue, il faut qu'on fasse aussi attention en tant que journaliste sur les tendances au niveau des villes et tout ça. Toujours dire derrière attention. Vérifier,
on va parler du stock de biens à vente qui progresse de 3% au T1 2026, après deux trimestres, il faut le dire, de baisse. Hausse régionale de 1% en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui avait quand même sacrement pris le bouillon en termes de baisse, plus 9% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Grosso modo, ce qu'on peut dire de tout cela, c'est que le marché est redevenu négociable, puisqu'on a posé la question de savoir, en moyenne, quelles étaient les marges de négociation. En moyenne, selon les chiffres que nous avons, on est entre 5,3% contre 5,1% au T4 2025. Donc aujourd'hui, négocier.
Il y a la possibilité de négocier, d'autant plus que le climat de taux est plutôt haussier.
Figaro Immobilier, on a sorti le baromètre des prix, et notamment sur la négociation, on arrive à des résultats plus importants que ceux qu'indique Sylvain, c'est-à-dire c'est 9% pour les appartements, 7% pour les maisons. Faut pas se mentir, faire attention aussi, on le sait, mis à part les avant-contrats des notaires, il y a toujours un temps de retard.
Ouais, c'est vrai.
Quand on interroge tous les réseaux, ils
disent
que depuis le mois de mars,
entre les taux de la Banque de France et les taux.
On est en baisse depuis le mois de mars, il y a moins de demandes, on a plus de stocks, on a beaucoup plus de mal. Quand on interroge les banquiers, quand on interroge les courtiers, ils disent il y a moins de demandes de crédit à l'habitat et on a des hausses de taux d'intérêt. Donc on est peut-être à un point de bascule.
Mais bien sûr, et je salue d'ailleurs Sophie Autong, la patronne du courtier Finance Conseil, qui était l'une des premières à me dire sur ce plateau, attention cette fois, ce mouvement de hausse qu'on attendait à l'époque de taux, les prix risquent de basculer plus rapidement que ce qu'on a eu au moment de la crise en Ukraine, qui était de dire, les gens attendaient, non, je ne vais pas baisser les prix alors que les taux ont remonté. Là, dès le démarrage, je pense que tout le monde a bien compris qu'avec ce début, comme on a quand même la mémoire, là, c'est
une super bonne nouvelle.
Bah, que les prix s'ajustent.
Ne cédons pas à la morosité ambiante. Achetez plus que jamais, et une très bonne chose que les prix enfin puissent baisser.
S'adapter en tout cas,
en France, qui sera une très bonne chose pour ceux qui veulent se loger.
Et surtout pour ceux qui veulent investir, parce que du coup, quand les prix sont plus bas et qu'on est en période d'inflation, ça accélère les rendements. Mais d'ailleurs, à propos d'investissement, regardez ma transition incroyable. Est-ce qu'on pourrait aller pas parler d'investissement durable et responsable avec
Olivier Marin. C'est important parce que je sens là une petite moquerie. On peut penser.
Mais non, je me moque pas.
On peut penser immobilier, Olivier. Justement, un immobilier différent. On pense pas forcément à la plus-value. On pense pas forcément aux gains.
Mais bien sûr.
Il y a de plus en plus, et il faut le dire ici, on peut investir aussi de l'argent dans des foncières qui développent l'immobilier solidaire, durable. Il faut les citer. Il y a Foncière Belleville qui met l'immobilier au service de l'utilité sociale, donc qui a été créée par 5 jeunes ingénieurs, soutenus par des institutionnels, des particuliers. Qu'est-ce qu'ils font Belleville? Ils réhabilitent en fait des immeubles désaffectés, ils en font, ils les transforment en logements, en lieux partagés, en ateliers, en espaces d'activité. Ils mènent des opérations notamment à Toulouse, à Saint-Denis, à Albi, à Marseille, à Valenciennes, au Havre. Dans le même esprit, il y a aussi Village Vivant, qui fait un peu la même chose dans les campagnes, qui rachète, qui rénove des locaux et des lieux de vie. C'est financé donc par l'épargne citoyenne. Vous pouvez mettre 100 euros.
C'est ce que j'allais dire,
à partir de 100 euros. Et donc, avec à la clé une réduction d'impôts et une utilité locale.
Puisque c'est réussir à cumuler les deux.
Mais Village Vivant a déjà ouvert plus de 30 lieux, des cafés boulangeries, des épiceries, des espaces culturels, des tiers-lieux, dans une quinzaine de départements. Donc, il y a vraiment aussi des associations qui tendent la main. Sylvain le disait tout à l'heure, I Love You, bien sûr qu'il faut citer, Caritas Habitat, Solico, il y a Habitat Humanisme aussi qui existe. Il faut vraiment les citer. Il y a même une association qui s'appelle Toi, Moi, et qui rachète des appartements pour des sans-abri. 350 000 sans-abri en France, il faut toujours aussi avoir ça en tête, 600 000 personnes aussi qui sont logées chez un tiers. Quand on parle de crise du logement aussi, elle est vraiment là, et c'est là où il faut sans doute qu'on ait un petit peu de recul, et qu'on peut pas avoir toujours en tête la marchandisation, on revend, on fait une plus-value, etc. Il y a des belles choses qui se passent dans le pays, il y a en tout cas des associations solidaires,
avec Olivier.
Et il faut les encourager, parce qu'elles font
un boulot. Quand on est dans les villes, souvent je dis on faudrait qu'on fasse des kibbutz urbains, ou le kolkhoz pleurisse, peu importe, mais ce qu'on voit naître de plus en plus, c'est des pensions de famille, par exemple, et il y a un principe qui reprend exactement ce que disait Olivier, qui est celui de l'habitat, d'un habitat collectif un peu partagé, avec des salles communes. Mais ça existait en France.
Oui, oui, bien sûr. Alors après, je suis pas certaine que ça revienne tout de suite, Sylvain.
Alors non, mais quand on est en état de crise et en état de dégradation du pouvoir d'achat, moi je trouve que les jeunes ingénieurs qui pourraient aller bosser dans des très grandes entreprises se sont investis dans ce projet collectif.
Et ils travaillaient avant, justement.
Absolument.
À la fois dans la bourse, dans des grandes entreprises.
Ils auraient pu.
Ils se sont dit. Arrêtons le gaspillage des mètres carrés inutilisés.
Absolument.
Chaque mètre carré compte. Est-ce qu'on peut avoir
c'est génial ce qu'il
faire
fait.
De l'intérêt
et
général. Oui, mais c'est quelque chose aussi qui vient des nouvelles générations. C'est aussi quelque chose qui sera dans le débat dans la présidentielle en 2027.
On espère, et on voulait aborder tout un tas d'études, mais comme en fait, il nous reste qu'une minute on parle rapidos du DPE collectif, est-ce que vous pouvez me le faire en 30 secondes pour qu'après, j'ai quand même la possibilité de montrer à la fois expression.
Merci Marie.
Et qu'Olivier puisse montrer aussi Propriété Figaro quand même, s'il vous plaît.
Voilà,
on a fait les deux promos. Juste un mot sur le DPE collectif.
Alors le DPE collectif, ça va faire plaisir à Olivier, puisque j'ai repris les éléments extrêmement bien écrits dans notre ami Guillaume du Figaro.
Guillaume Erard,
Salut Guillaume.
L'excellent Guillaume Erard. Ce que je retiens très rapidement, c'est quoi? C'est que depuis, vous savez, 2026, le DPE collectif est obligatoire pour les copropriétés de moins de 50 lots, que le coefficient de conversion de l'électricité.
Il a été baissé.
Ce qui va me permettre de remettre aussi ce qu'on appelait les passoires thermiques sur le marché, ce qui est une très bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les travaux. Mais ce que je retiens finalement de cet excellent article, c'est qu'enfin, on raisonne de manière collective en valeur d'actif. Parce que c'est important. Pourquoi? Parce que si vous raisonnez en valeur d'actif dans une copropriété où on a l'impression qu'on n'a que des dépenses.
Eh ben, on n'investit pas. Alors que si on dit quelle valeur ça apporte au patrimoine,
j'adore la valeur.
Je suis fan. Mais non, mais je conclue parce qu'en fait, j'ai la musique du jingle.
Voilà.
Je vais couper la chic. Bon, bah merci quand même. On avait tellement de choses à dire à chaque fois. Mais oui, mais c'est ça qui est passionnant dans les experts de Limo. On a toujours un goût de trop peu. Mais ça donne envie d'être à la semaine prochaine. Merci Sylvain Lévy-Valency, cofondateur de Radio Imo. Et merci Olivier Marin, rédacteur en chef, propriété Le Figaro. Quand ça veut pas, ça veut pas. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes des experts de Limo sur BFM Business.
Sur BFM Business.